Seigneur, nous sommes tous autour de toi avec des besoins personnels, avec des attentes, avec des espérances. Nous sommes devant toi parce que nous avons entendu parler de ta grande force, de ta grande sagesse, de ta grande puissance. Et nous voulons te dire, Seigneur, donne-nous, comme la femme de l'Évangile, donne-nous seulement des miettes de cette grande force que tu as. Bénis-nous aujourd'hui à l'écoute de ta parole. Redonne-nous la foi et le courage et l'espérance au nom de Jésus et touche en particulier les malades au milieu de nous, ceux qui désespèrent et ceux qui espèrent et ceux qui ne savent plus où aller. Aide-les, encourage-nous, encourage-moi, bénis-nous Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir, chers amis. Et nous ouvrons ensemble la Bible dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 5. Cette histoire va nous rejoindre. Les chemins de l'Évangile ne sont pas étrangers à nos vies. Le peu que j'ai lu des légendes de l'Antiquité, je me dis, ça c'est pas moi, ça c'est pas moi, je me reconnais pas. De la mythologie, on ne s'y reconnaît pas. Mais quand je vois l'Évangile, je vois des familles, des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, je vois le Christ dans tout ce monde, dans les maisons, dans les rues, partout, je m'y reconnais. Et j'aimerais vous partager avec vous, Marc chapitre 5, verset 21, l'histoire de la petite fille, la fille de Jaïrus. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, donc c'est le lac de Tibériade, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. Ma petite fille, ben c'était sa fille, ce n'était pas sa petite fille, vous voyez la nuance, c'était sa fille qui avait 12 ans. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Voilà, ça c'est rassurant. Et une grande foule le suivait et le pressait. Je vous fais grâce de l'histoire qui suit. Il a été gêné par une femme qui était malade. Il s'est arrêté, il a répondu à cette femme, il l'a guérie. Bon, pendant ce temps-là, le temps presse et la petite fille, elle est mourante. Alors, j'arrive directement au verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, voyez-vous, le Seigneur ne tient pas toujours compte de ce qu'on dit, heureusement. Parfois on dit des paroles un peu qui sortent de l'ordinaire, qui sont des paroles d'incrédulité, de doute, il n'en tient pas compte. Sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit ? Et pourquoi pleurez-vous ? » Surprenant quand même, hein ? Parce que, bon, des cris, bien sûr, ça ne sert à rien, mais les pleurs, quand on vient de perdre une petite fille, pourquoi pleurez-vous ? Pourquoi pleurez-vous ? J'ai perdu ma fille. Voulant dire, il n'y a plus de raison de prier parce que je suis là. De crier, parce que je suis là. Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Ils se moquèrent de lui. À l'heure ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talita kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Un ordre. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Amen. Parce qu'une petite fille qui revient à la vie, il faut vite lui faire des confitures, des gâteaux, des tartes, etc. Elle revient à la vie. Il faut qu'elle garde la vie. Chers amis, nous allons nous intéresser à cette histoire qui, pour moi, nous parle de la foi. Et Jaïrus, qui n'est pas trop pour Jésus. C'est un chef juif de la synagogue, et à cette époque-là, toute la synagogue était plutôt contre Jésus. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est de cœur pour. Mais il a entendu parler, comme tout le monde, de Jésus, comme vous d'ailleurs et comme moi, et puis il y a une certaine confiance en Jésus. Et cet homme, il va nous donner une leçon de foi. Cet homme qui n'est pas encore chrétien, il va nous donner une leçon de foi, et vous allez voir que tous ses gestes, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, ça respire là, un homme qui fait confiance. Il va vers Jésus, sa fille est en train de mourir. Vous savez, le monde tourne et on ne s'imagine pas que des gens n'avancent plus. On ne s'imagine pas que des gens à Rennes, malgré tout ce beau temps et toutes les foires à tout et tout ce qui se passe dans les rues de Rennes aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, on ne s'imagine pas que dans certaines maisons, on s'est arrêté. La vie s'est arrêtée. Parce que quelqu'un va mourir, parce qu'un enfant est malade, l'univers tourne, mais certains n'avancent plus. Et c'était le cas de Jaïrus. Parce que dites-moi, quel est le plus important sur la terre? Le plus important, c'est que nos enfants aient bien, c'est que notre vie qui est unique puisse trouver le Christ pour ressusciter, continuer, dépasser les obstacles. Quel est le plus important? Ce n'est pas que nous ayons une technologie super développée, que nous ayons 4 voitures et 15 maisons. Le plus important, c'est notre vie qui est unique, comme la petite fille de Jaïrus était une petite fille unique. Il n'en avait qu'une, et elle est tombée malade, et elle était en train d'expirer. Et voici sa foi. Il va chercher Jésus, qui est quand même à quelques kilomètres, qui est au bord du lac, qui est avec ses apôtres, qui est même dans un repas. Il va le chercher, il va le déranger au milieu du repas. Je pense que la foi, c'est aller vers Jésus. La foi, c'est dire, Seigneur, viens dans ma maison, viens dans la chambre de ma petite fille, viens quand j'ai mal. Viens quand je ne sais plus quoi faire, quand je suis dépassé par tous les événements. Viens, Jésus. C'est ça, la foi. C'est aller, je ne dis pas déranger, mais chercher Jésus. Et il n'est pas loin. Il n'avait que quelques kilomètres peut-être à faire. Et nous, on n'a simplement qu'un oui à dire, un cri à donner, et le Christ est là. Que veux-tu? Je suis avec toi. La foi, c'est aller vers Jésus. La foi, c'est aussi la prière. La foi, c'est lui parler. Cette prière de Jaïrus, je trouve qu'elle est difficile à prononcer. Je vous assure que si j'avais cette prière à faire, j'aurais beaucoup de mal. Je serais en larmes. Je serais accablé. parce que la fille de Jaïrus est en train de mourir et son père a dit à Jésus, « Ma petite fille est à l'extrémité. » Extrémité de quoi ? À l'extrémité de son souffle, de sa vie, de sa jeunesse. Elle va terminer son enfance dans la mort. Il faut du courage pour dire ça. Il faut du courage pour dire la vérité à Jésus. Il faut du courage pour dire les mots qui nous semblent impossibles à dire. Mon enfant va mourir, ma fille va mourir, mon mari, ma femme vont mal, ma santé est à l'extrémité. Mais c'est ça la prière. C'est dire l'impensable, c'est ouvrir la vérité de son cœur, c'est se décharger. On ne joue pas là. Quand quelqu'un va mourir, on ne joue plus, on ne s'amuse plus. C'est sérieux. Et là, le papa, il n'a que des mots durs. Ma fille est à l'extrémité. Viens vite, impose-lui les mains et elle vivra. Se décharger. Dire ce qu'on n'aurait jamais pensé dire un jour. Viens vite dans ma maison. Parfois, les gens m'ont dit, moi Jésus, jamais je vais entendre parler de Jésus. Et pourtant, quand la vie chancelle, quand la vie s'écroule, on a tant, on a besoin de prier. Viens vite, Seigneur, chez moi. C'est ça la foi. Appelez le Seigneur au secours. Alors, je me tourne vers vous. Y a-t-il parmi nous sûrement des amis qui ont dans leur maison quelqu'un qui va très mal et qui aurait besoin de faire ce déplacement, cette marche vers la foi en disant « Seigneur, viens vite, hâte-toi pour que mon fils ressuscite, arrête, stop, prenne un autre chemin » ou ma fille, je ne sais pas. Je parle un petit peu des enfants, pardonnez-moi. La foi, c'est espérer dans les obstacles. Regardez l'urgence. La petite fille est en train d'expirer. Regardez l'urgence. Et puis, voici que sur le chemin, il y a beaucoup de monde. Il y a des embouteillages. Voici que sur le chemin, il y a des gens qui appellent Jésus. Et puis, il y a une femme qui l'appelle, enfin, qui ne l'a pas appelée, mais elle a touché le vêtement de Jésus pour être guérie. Donc, il y a des arrêts. Il y a des encombrements. Et la foi, c'est une espérance malgré les encombrements de la vie. Une espérance devant le retard de Jésus. Une espérance devant des gens qui ne comprennent pas votre chagrin. La femme, elle ne savait pas qu'il y avait une petite fille qui mourait. Et puis autour de Jésus, des gens continuaient de discuter, chanter peut-être. Ils ne savaient pas. Les gens semblent indifférents. On a l'impression qu'ils ne comprennent pas qu'on est dans le chagrin. On est dans deux mondes différents. Il y a le monde de la souffrance, puis le monde de la joie. Et ça ne se croise pas toujours. Alors, il faut que dans notre foi, nous ayons une certitude, une espérance que Dieu... Rien ne lui échappe, rien. La foi, ce n'est pas une certitude tranquille. On n'est pas en train de dormir en attendant que le paradis vienne sur terre. La foi, c'est une certitude combattante. Il faut résister au doute, résister à tout ce qui nous dit « ça ne sert à rien ». Pourquoi tu fais ça ? Est-ce que tu as raison ? Alors, pauvre Jaïrus, le temps passe, il s'occupe de la femme, il la fait parler, elle est guérie de sa perte de sang. Et puis, ils repartent quand même enfin, et ça ne va pas assez vite, ça ne va jamais assez vite. On voudrait que les choses se règlent tout de suite pour nous. Et voilà que quelqu'un arrive de chez Jaïrus avec cette nouvelle terrible, « Ta fille est morte ». Ne dérange pas le maître, ça ne sert à rien. Ne dérange pas Jésus, ça ne sert plus à rien. Jésus ne sert à rien. Jésus ne peut plus rien faire. C'est mal connaître Jésus que de penser que le Christ s'arrête en cours de chemin. C'est mal le connaître que de penser qu'il ne va pas achever sa tâche. Et Jésus va lui dire devant cette parole, cette parole qui ébranle, qui tue, qui fait un mal terrible. Ta fille est morte. Et en plus, il n'y a pas les mots qu'il faut. Moi, j'aurais dit, elle va de plus en plus mal, dépêche-toi. Hâte-toi, je ne te dis pas tout. Ta fille est morte. Une parole assassine, une parole sans égard. Et là, Jésus, lui, il a une autre parole. Une parole qui redonne de la vie, de la foi. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas. Quand ta vie marche vers l'inconnu, ne crains pas, crois seulement. Quand ce que tu as construit s'ébranle et se fissure, ne crains pas, crois seulement. Quand tu quittes tes sécurités humaines, quand tu ne t'appuies plus sur du solide, ne crains pas, crois seulement. Quand tu penses que tu as tout fait et que rien n'a réussi, ne crains pas, crois seulement. Ça ne dit pas grand-chose. Crois seulement, mais qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur, dans ses paroles, laisse toujours un voile. Afin que nous puissions exercer la foi, c'est comme s'il nous disait, ne crains pas, tu verras la suite. Et si c'est moi, le Christ, qui te dit ça, tu verras la suite, eh bien, tu verras de tes yeux, comme le peuple d'Israël a vu la mer Rouge s'ouvrir, tu verras de tes yeux, si tu crois aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu. Voulant dire tout simplement, aucune situation n'est irréparable. Aucune situation n'est fermée à l'action de Jésus. Aucun problème dépasse les possibilités de Jésus. Quand même, là, c'était le sommet, l'impossible. Ta fille est morte, tu déranges Jésus, laisse-le aller ailleurs. Ne crains pas, crois seulement. Il récupère ce pauvre père, il le récupère parce qu'il est en train de se noyer dans le chagrin. La foi, c'est espérer devant les obstacles. C'est se dire, Dieu aura le dernier mot. Dieu sait toutes choses. Dieu connaît notre chagrin. Dieu ne délaisse pas la prière du misérable. C'est écrit dans les psaumes. La foi, quatrièmement, c'est aussi accepter une parole qu'on ne comprend pas. Quand Jésus va rentrer dans la maison, il va voir des gens qui crient, qui hurlent, qui pleurent, qui jouent de la musique, de la flûte. Il va voir des gens qui sont en larmes. Et là, il va les faire sortir. Et il va dire une parole. Et les paroles de Jésus sont toujours, premièrement, vraies et efficaces. Elles montrent ce qu'on ne voit pas de nos yeux. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Il se moque de nous. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. C'est une parole qui voit l'avenir. C'est une parole prophétique. C'est comme s'il disait, je vois d'avance que cette petite fille, eh bien, la mort de cette petite fille n'aura pas le dernier mot. Je le vois d'avance, je le sais. Elle dort et je vais la réveiller. Parce que si elle dort, on va pouvoir la réveiller. Et tout le monde s'est mis à rire. On a du mal à croire qu'il y a quelqu'un de plus fort que la mort. On a du mal à croire qu'on peut revenir, même de la mort. Ça fait peur, parce que nous, notre cadre de vie, c'est la naissance et la mort. Mais au-delà, on a du mal à accepter. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Il faut la réveiller. Mais qui va la réveiller ? Parce que la mort, elle ne se règle pas d'elle-même, naturellement. La mort, ce n'est pas quelque chose qu'on peut laisser aller puis qui va finir par s'arranger. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans la politique de dire « ça finira par s'arranger ». Bon, là, il y a la guerre, mais « ça finira par s'arranger ». Mais avec la mort, on ne peut pas dire « ça finira par s'arranger ». Il faut une intervention extérieure. Il faut quelqu'un de plus fort que la mort puisse dire une parole qui arrête le cours les choses. Elder. J'aime bien cette parole parce que c'est le côté caché de nos désespoirs. On a perdu peut-être une épouse, on a perdu un mari, on a perdu un enfant. Et Jésus dit, Elder. Voulant dire, tu ne la vois pas, mais elle va se réveiller. Elle va un jour sortir de son sommeil. Donc c'est le côté caché de nos désespoirs. Nous, nous voyons le côté sombre des nuages. Mais au-dessus des nuages, tout est blanc, tout est lumineux. Et Jésus nous dit, derrière ce visage qui est en train de se figer, ne craignez pas la petite odeur seulement, parce que je suis là. Mais mes amis, sans parler de la fille de Jaïrus, moi je vous dis que toute une partie de notre vie dort. Toute une partie de notre vie est immobile, paralysée, attristée, tétanisée. On ne bouge plus, on n'avance plus, on ne construit plus, on ne respire plus, parce que le mal nous accable, parce que des déceptions nous accablent, parce que des gens nous ont arrêtés, parce que il y a eu des pierres sur notre chemin, parce qu'il y a eu des vents contraires. Alors, une partie de la vie s'est stoppée, s'est arrêtée, s'est paralysée. Et Jésus dit la même parole, vous dormez, mais je vais vous réveiller. Vous êtes arrêtés au bord du chemin, mais je vais vous réveiller. La foi, c'est accepter cette parole inconnue. Elle n'est pas morte, elle dort. Jésus disait, vous vivrez parce que je vis. Si quelqu'un vit et croit en moi, si quelqu'un garde ma parole, dit Jésus, il ne verra jamais la mort. J'ai toujours été impressionné par cette parole parce que je pense que quand nous partirons, nous saurons que nous partons. Mais Jésus dit, vous ne verrez pas. Vous passerez dans un moment de bonheur sûrement, puisque Dieu sera là pour nous accueillir. Vous ne verrez pas tout ce que vous avez imaginé sur la mort. Vous serez dans la paix de Jésus, l'amour du Christ. Alors pour nous, comme c'est rassurant sur ce côté de la mort mystérieux, il y a un inconnu, bien sûr. Je le reconnais pour ma vie, je ne connais pas cette chose, cette partie de ma vie. Mais dans cet inconnu de ma vie qui s'appelle la mort, eh bien, il y a un amour plus fort que la mort. C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de Jésus qui nous promet « Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis ». Il nous le promet. Et quand Jésus promet, la terre peut s'écrouler, le monde peut s'écrouler, sa parole reste éternellement. Tu seras avec moi dans le paradis. La foi, c'est accepter ces paroles. Parfois, on ne comprend pas. Accepter que le Christ nous pardonne sur la croix en donnant sa vie. Que le Christ nous promette la résurrection. Que le Christ nous délivre de la puissance du diable. Toutes ces choses-là, on ne les voit pas, on ne les sent pas. Mais il faut croire ce qu'il nous dit. Et vérité, ta parole est la vérité, disait Jésus à son Père. Ta parole est la vérité. La foi, pour conclure, c'est laisser le Seigneur agir. Il entre dans la maison, il met dehors tous les crieuses, les criards, il met dehors tous ces gens qui jouent de la flûte, qui dansent, qui chantent, qui crient, qui hurlent. Hop, tout le monde dehors. Pas gentil, hein? Il veut être seul avec cette petite fille, avec son père, sa mère et trois apôtres qui vont être témoins, Pierre, Jacques et Jean. Parfois, on a besoin dans nos vies d'être un peu seul. Il faut arrêter le bruit. Soi-même, il ne faut pas faire de bruit. Il faut écouter ce que Dieu nous dit dans le silence quand on ouvre les Saintes Écritures. Tout le monde dort, s'il vous plaît, laissez-nous seuls. Et là, il va agir et il faut le laisser agir. Le papa avait dit, viens, impose-lui les mains et elle vivra. Le Père, Jésus ne va pas lui imposer les mains. Il va simplement dire une parole. D'ailleurs, Jésus règle tout avec une parole. Une parole qui va ouvrir la porte. Au Moyen-Âge, les villes comme Rennes étaient entourées de murailles avec des portes. Et pour ouvrir la porte, quand on voulait forcer la porte, on avait ce qu'on appelait comme un arbre, on appelait ça un bélier. Et on se jetait sur la porte, à peut-être 20 ou 30 hommes, on se jetait sur la porte et on tapait et ça ouvrait la porte, un bélier. Ça ressemblait à une tête de bélier. Et je pense que pour ouvrir la porte de la mort, il faut vraiment un bélier. Quelqu'un qui soit plus fort. J'aurais presque failli dire l'agneau de Dieu, le Christ, Jésus. Il faut ce bélier, c'est-à-dire cette parole d'autorité. Alors, il va dire une parole, il n'y en a que 3-4 paroles qui sont dans sa langue. Jésus ne parlait pas français, il ne parlait pas breton, il parlait araméen. Il va dire une parole en araméen, on la connaît par cœur, « Talita kumi », ça veut dire « jeune fille, debout ». « Jeune fille, debout ». Cette parole est restée pour nous dire que Jésus, il parlait la langue de tous les jours. Jésus, il parlait notre langue, il prenait notre culture, nos façons d'être, il vivait comme nous, habillé comme nous, il mangeait comme nous, il était dans nos maisons, dans nos rues, dans nos chagrins, dans nos cimetières, il était là. Et il a pris cette parole que tout le monde a compris, tout le monde l'a entendu, « Talita kumi, jeune fille, debout !» Mais dans cette parole, moi, ma parole, je peux vous dire « debout, jeune fille », mais ça ne fait pas grand-chose. Mais quand Jésus parle, il y a dans ses paroles une puissance, une force, une autorité, l'autorité du Créateur. Ce n'est pas des paroles comme les miennes. C'est la parole de Dieu. Jeune fille, parle à la fille, mais elle est morte, elle ne va pas entendre. Mais la jeune fille, si elle n'entend plus rien, si elle n'entend plus la voix de son père qui pleure, la voix de sa mère qui pleure, si elle n'entend plus les criards qui sont autour d'elle, elle entend une parole. Elle entend la parole de Jésus. Et s'il y a une parole qui peut pénétrer dans les cœurs les plus lointains, les plus fermés. Si une parole peut pénétrer dans le cœur des enfants parfois qui sont tellement loin de tout, qu'ils n'écoutent plus rien, c'est la parole de Jésus. Parce que sa parole, elle ouvre toutes les portes. Rien ne peut lui résister. Bien sûr, je peux l'écouter et refermer la porte. Mais elle ouvre les portes. Talita kumi. Et la fille, elle entend. Jésus n'a pas dit qu'il allait la ressusciter. Il n'a pas dit « Je vais te suivre, Jaïrus, et tu vas voir ta fille, elle va revivre. » Il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit parce qu'il nous apprend à lui faire confiance sans tout nous dire. Il ne vous dit pas que votre fils va ressusciter, que votre fille va ressusciter, que votre famille, que votre santé, il ne nous dit pas tout. Il nous apprend à faire confiance, à écouter ses paroles. La seule voix de Jésus a suffi pour que la fille de là où elle était, je ne sais pas où, dans la mort, elle a entendu cette voix, elle est revenue. Et là, Jésus lui a pris la main. Quel geste tendre, quel geste magnifique. Prendre un enfant par la main, cet enfant qui ne marche plus, qui ne bouge plus, il l'a pris par la main comme un geste de création et hop, il l'a fait lever de son lit. Parce que certainement qu'elle était ras du sol, les lits à l'époque étaient ras du sol, il l'a fait lever. Et certainement qu'elle est malade depuis déjà quelques semaines, certainement qu'elle était faible. D'ailleurs, il a dit, Jésus, donnez-lui vite à manger, elle a faim. Mais donc il l'a levée. Il a fait le premier geste, talita kumi, et le dernier, il l'a relevé par sa main. Et elle s'est mise à marcher, parce qu'elle n'était pas à moitié ressuscitée. Elle était ressuscitée et guérie et bien en vie. N'est-ce pas l'image de nos vies, mes amis? On aurait besoin parfois que le Christ prenne notre main et nous relève. Allez, continue ta route, je suis avec toi. Vous savez, parfois j'ai comparé notre vie à une barque. Vous avez remarqué déjà, si vous êtes parfois, quand on va au bord de la mer, on voit sur la plage, sur le rivage, on voit des barques qui sont échouées parce que c'est la marée basse. Elles sont toutes couchées. Ça fait un peu triste, hein? On entend les cordages qui bougent un peu dans le vent, mais il n'y a plus la voile, ça ne bouge plus. La barque est comme morte. Et puis tout à coup, le soir, la marée revient, l'eau revient, et puis commence à passer sous la barque. Et la barque, tout doucement, et tout bouge, et tout chante dans la barque, tout doucement, la barque se relève et elle se retrouve sur l'eau. Et je pense que notre vie, elle est couchée comme la fille Jairus, elle est couchée comme la barque. Mais si nous ouvrons notre cœur à la parole de Jésus, nous allons nous redresser et nous allons continuer notre chemin. Donc, le résumé de ce texte, c'est laisser le courant de vie, laisser la parole de vie de Jésus entrer, nous y abandonner, lui faire confiance et debout, en marche, parce que nous sommes faits pour marcher vers notre destinée, je vais plutôt dire vers notre destination. Lève-toi et marche. L'apôtre Paul dans la Bible parle souvent de marcher. Jésus aussi parle de marcher. On est fait pour avancer, pas vers la vieillesse, pas vers la mort, avancer vers le Christ, vers Dieu qui est au ciel. Frères et sœurs, chers amis, talita kumi, je vous le dis, lève-toi, marche. Nous allons reprendre confiance et nous remettre entre les mains de Dieu. Amen. Nous allons nous remettre, que le Christ prenne notre main. Vous savez, parfois, quand on pose sa main sur la main de quelqu'un, ça m'est arrivé souvent, et vous aussi, pas seulement serrer la main, parfois distraitement, mais poser sa main sur la main de quelqu'un. On communique du courage, on communique une présence d'amour, on communique un message qui se résume à cela: ne crains pas, je suis là. Et Jésus prend notre main pour nous dire: ne reste pas couché, ne reste pas en rade pour reprendre la barque, continue, je suis là. Amen. On prie le Seigneur. Seigneur mon Dieu, nous avons besoin de ressusciter, de reprendre vie, que le courage de la vie, le goût de la vie nous remplisse de force, de hardiesse, de joie. Seigneur, nous sommes comme la fille de Jairus. Nous sommes peut-être comme Jairus, désespérés devant un enfant. Nous sommes certainement comme ce couple, nous sommes certainement comme ces gens qui criaient, qui ne savaient pas quoi faire. Nous sommes tous en attente d'un secours de Dieu. Nous sommes en attente d'une consolation, d'une parole qui nous relève, d'une parole qui remet la route, qui nous remet sur la route. Seigneur, dis-la cette parole victorieuse. Dis-la dans nos vies aujourd'hui. Nous sommes à l'écoute. Tu as prononcé une parole et la petite fille s'est remise en marche. Tu as prononcé une parole et le monde s'est mis en marche. Et sur la croix, tu as dit: tout est accompli pour vous, pour nous, pour tout le monde. Tout est réglé, tout est prêt, tout est prêt. Venez. Seigneur, tu nous redonnes courage et foi. Tu es là avec nous aujourd'hui. Amen. Restons devant le Seigneur quelques instants. Vous avez vu l'histoire de Jaïrus ? Comme cette histoire simplement racontée recoupe nos histoires. Comme on se reconnaît dans cette histoire. Mais l'essentiel, c'est de reconnaître Jésus, qui lui aussi est chez vous, dans votre chambre, dans votre chemin, dans vos chagrins. Il est avec vous. Il ne s'éloigne jamais de votre porte. Il ne part pas quand tout s'écroule. Il est là. Et je pense que nous pouvons tout attendre. Nous ne savons pas ce qu'il nous promet toujours, mais il nous promet la vie. Il nous promet des réponses claires.